Jonathan Thomas, bonjour. Cette fois-ci, vous allez nous présenter les catalogues de disques socialistes et royalistes, édités par l'Association Phonique des Grands Artistes au tournant des années 1900 et 1910. Il s'agit là des premières séries de disques politiques du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est cette Association Phonique des Grands Artistes, qui est également connue sous son acronyme ABGA ? Parce que ce qui paraît étrange au premier abord, c'est que rien dans le nom de cette entreprise ne laisse penser qu'elle puisse avoir une activité politique.
Oui, tout à fait. C'est une maison de disques généraliste qui a été fondée en 1906 par des artistes de la scène lyrique française et du café-concert, dont parmi eux le pianiste Paul Salomon, qui est également un peu la pièce maîtresse de cette structure et qui apparaît sur une bonne partie des enregistrements socialistes et royalistes que PS2X présente dans cette collection. Cette maison, en fait, elle a une raison d'être un peu particulière dans le paysage phonographique de l'époque. Elle a été fondée donc par des artistes, en quelque sorte pour des artistes, puisque son but était de mieux répartir les gains des ventes de disques entre les artistes et les éditeurs, ou en tout cas de les répartir de façon plus équitable que ce qu'on pouvait trouver à ce moment-là dans le paysage de l'édition phonographique. Ceci dit, cette répartition plus équitable des revenus avait une contrepartie qui pouvait être handicapante pour les artistes, puisqu'il fallait que ces artistes n'enregistrent que pour l'ABGA. Et ceci s'avère effectivement être un élément handicapant pour l'entreprise dans la mesure où elle va se trouver assez vite en difficulté dès ses premières années d'existence et que des artistes signés par l'ABGA, qui n'enregistrent à leur goût pas assez pour elle et qui sont donc privés de revenus, vont lui attenter des procès que l'ABGA va perdre. Donc à la fin de 1909, l'ABGA est en grande difficulté financière et donc on peut comprendre l'arrangement qu'elle trouve avec le Parti Socialiste et ses filiaux, non pas comme un engagement sur le plan de la propagande politique, enfin, en tout cas comme un engagement sincère, mais plutôt comme l'instauration d'une relation gagnante-gagnante entre le parti et la maison de disques, le parti trouvant là une nouvelle façon de faire de la propagande et la maison de disques trouvant là peut-être un nouveau marché qui s'ouvre à elle. Donc l'absence d'engagement politique de l'ABGA et plutôt sa profonde motivation commerciale peuvent également être lues dans la publication de la série de disques royalistes au printemps 1910 et puis surtout en fait dans la publication en 1911 d'abord d'une série de disques publicisés sous le nom de Phonographe républicain dans le journal partisan Le Radical. Puis, en 1912, la même série, donc reconnue comme étant une série radicale, est publicisée dans le journal L'Aurore, qui n'est pas un journal partisan, sous le nom de Phonographe ABGA. Donc on voit là une certaine porosité entre le commerce et la politique, qui montre quand même que l'ABGA s'engage résolument sur le terrain du commerce et non sur celui de la politique, avec ses inscriptions partisanes diverses et contradictoires. En fin de compte, tous ces disques de propagande publiés par l'ABGA répondent véritablement aux besoins d'une entreprise qui a besoin de débouchés et à des organisations politiques qui recherchent de nouveaux moyens de propagande et qui voient dans la modernité que représente le phonographe et le disque quelque chose qui peut attirer l'attention sur elle, qui peut en quelque sorte les faire sortir du lot.
Donc ces séries de disques socialistes et royalistes produites par l'ABGA sont donc les premières séries de disques politiques du XXe siècle. Mais que changent ces disques à la propagande de la SFIO et de l'Action française? Et pourquoi est-ce que ces organisations politiques ont-elles souhaité utiliser ces disques?
Alors, on peut commencer par parler de la SFIO, puisque c'est la première à avoir publicisé sa série de disques dans son journal, L'Humanité, sous le nom non pas de disques socialistes, mais de phonographes socialistes. Je précise par ailleurs que c'est bien L'Humanité, c'est bien le journal qui prend en charge toute la logistique de cette opération, qui consiste en premier lieu à intensifier par le partage de chansons, de chants socialistes ou de chants sociaux, la mobilisation qu'on peut trouver dans les moments de rassemblement ou de sociabilité militante. Donc on peut penser par exemple aux réunions politiques, aux fêtes, aux rencontres amicales, la publicité que fait paraître l'Humanité par exemple parle des dimanches entre amis. Donc évidemment, avant de posséder des disques ou avant même l'avènement du son enregistré, on pouvait utiliser le chant dans ces moments de rassemblement, mais il fallait qu'on ait quelqu'un sous la main pour pouvoir chanter. Et là, on n'aura plus besoin de cette personne et donc on va pouvoir systématiser le recours à la chanson dans ces moments de rassemblement. En deuxième lieu, cette opération vise aussi à naturaliser les chants socialistes en les diffusant le plus possible. Dans la publicité que fait paraître l'Humanité, il est question de faire aimer ces chants comme on aime la chanson populaire. Il y a donc une volonté de créer une propagande du quotidien par le chant politique en l'imposant comme un chant populaire qui ne serait pas associé en particulier à un parti, mais plutôt à une culture populaire qu'il faut pouvoir façonner par la politique pour améliorer les chances de réalisation d'un projet politique. Enfin, troisièmement, il s'agit d'imposer une esthétique qui soit conforme aux normes esthétiques que la SFIO reconnaît comme valables. Donc la SFIO à l'époque ne dispose pas d'une doctrine esthétique particulière, mais en tout cas elle a une sorte de champ des possibles au niveau de l'esthétique. Et notamment la publicité de l'Humanité, qui annonce le lancement, dit qu'il faut remplacer dans les rassemblements militants le, je cite, « refrain patriotard de café-concert ». Donc il faut savoir qu'à gauche, au début du XXe siècle, on juge souvent le café-concert comme un lieu moralement contestable, voire néfaste, mais aussi qu'on dispose de chansonniers, comme ceux de la Muse Rouge, qui considèrent la chanson comme un moyen de pédagogie autant que d'émancipation et qui souhaitent que la chanson associe avant tout la conscience sociale, la poésie et la vertu. Donc grâce au disque, on va pouvoir engager une lutte entre deux esthétiques. D'un côté, la chanson de café-concert, de l'autre, la chanson sociale de gauche. Et on peut considérer que le disque, par les moyens de diffusion qu'il offre, sa capacité à être répétée en tout lieu et en tout temps, amplifie en quelque sorte les signes sonores des partis politiques. Et donc, on peut considérer que le disque socialiste va engager une lutte d'amplification, d'existence esthétique entre le café-concert et l'esthétique portée par la SFIO. J'ajoute enfin que toute cette opération de propagande s'appuie évidemment sur la participation des interprètes de l'ABGA, interprètes qui sont censés être excellents et qui sont connus et reconnus pour leur excellence. Ce qui signifie que la notion de prestige est très importante dans la communication au lectorat de l'Humanité de cette opération.
Donc nous venons de voir ce que la SFIO a cherché à faire avec son phonographe socialiste. Et qu'en est-il de l'Action française et de sa série de disques royalistes alors ?
Alors quand le phonographe socialiste sort, l'Action française réagit très rapidement pour s'en moquer, pour le railler. Elle le surnomme le phonographe conscient, mais elle regrette dans le même temps l'absence de la voix de Jaurès parmi les enregistrements. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans la mesure où l'Action française situe encore le pouvoir politique du son enregistré dans le discours et pas encore vraiment dans la musique. Mais on peut aussi penser que l'Action française est un peu jalouse ou contrariée de s'être fait passer encore une fois devant par la SFIO, qui est un ennemi, son ennemi politique. Et il faut savoir qu'en fait, en 1909, déjà, Jacques Piou, qui est un autre ennemi politique de l'Action française, qui est le fondateur de l'Action libérale populaire, un parti catholique, donc adversaire de l'Action française, avait sorti et mis en vente des cylindres de discours. Et une note de la police mentionnait que cette sortie avait manifestement contrarié les membres de l'Action française et leur avait donné des envies d'usage de haut-parleurs qu'ils pensaient placer aux fenêtres pour en quelque sorte haranguer les passants, créer de l'agitation. Donc il n'est pas très étonnant que l'Action française publie sa propre série de disques quelques mois après le phonographe socialiste. Dans cette série, on va d'abord trouver La France bouge, qui est le champ d'assaut violemment antisémite des Camelots du Roi, les Camelots du Roi étant le groupe d'action et de propagande de l'Action française, ainsi que sur l'autre face de ce disque, La Gueuse, qui est un chant tout à fait anti-républicain. Il faut noter que ce disque-là est publié sous le label de l'Action française et qu'il est le seul dans cette série de disques royalistes à l'être. Le reste de cette série est consacré à des chants royalistes, pour la plupart relatifs à la guerre de Vendée, c'est-à-dire au premier moment de la lutte royaliste, et d'autres à des chansons du chansonnier breton Théodore Botrel, qui à l'époque jouit d'une grande renommée et qui sera appelé d'ailleurs à soutenir quelques années plus tard le moral des troupes françaises engagées sur le front pendant la Grande Guerre. Alors tous ces chants signifient finalement l'identité de l'Action française, et ils signifient cette identité à la fois dans l'action, avec les chants des Camelots par exemple, avec ce qui fait office d'hymne partisan, et également il signifie une identité dans la mémoire avec ces chants qui renvoient donc au premier temps de la lutte royaliste suivant la Révolution. À ceci s'adjoint également une figure de prestige avec Théodore Botrel, en raison des qualités de chansonnier et de poète qui lui sont alors largement reconnues.
Tout compte fait, quelle est la place que prennent ces disques socialistes et royalistes que l'on peut qualifier de pionniers, non seulement dans l'histoire de la SFIO et de l'Action française, mais aussi dans l'histoire de la propagande sonore enregistrée?
S'agissant de la SFIO, le phonographe socialiste n'aura aucune suite. Il faudra attendre 20 ans et la fin de 1929 pour que la SFIO se dote à nouveau de disques politiques par l'intermédiaire d'ERSA, qui est une entreprise fondée à l'initiative de Compère Morel et de Jean Loris, qui sont deux éminents propagandistes du parti. En fait, on pourrait même dire qu'il y a eu comme un effacement à l'époque de la mémoire du phonographe socialiste, et ce afin de présenter ERSA comme une entreprise d'avant-garde, et en quelque sorte pour montrer que cette entreprise était quelque chose d'absolument nouveau dans le paysage politique de l'époque et qu'elle donnait un avantage significatif au parti socialiste par rapport à ses concurrents. En revanche, le fait d'utiliser exclusivement de la musique, à mon sens, annonce ce que sera une bonne partie de la propagande des années 30, qui commence par s'appuyer sur le discours, puis laisse une place de plus en plus importante à la musique au fur et à mesure que les années passent. Et ce sera notamment particulièrement le cas pour la propagande sonore enregistrée d'après la Seconde Guerre mondiale. Du côté de l'Action française, on peut penser que la série royaliste est une sorte de premier pas de cette ligue dans les usages politiques, non seulement du son enregistré, mais aussi du son technicisé. Mais il faut attendre également 1927 pour voir l'Action française, ou en tout cas des militants de l'Action française, s'engager dans des sortes de magouilles sonores portées sur les lignes de téléphone. Par exemple, des membres de l'Action française vont mener des écoutes sur des lignes téléphoniques afin de récolter des informations stratégiques, ou vont même échafauder un canular assez savant pour faire évader Léon Daudet, qui est un des principaux orateurs, polémistes et figures de l'Action française, de la prison de la santé. Je pourrais ajouter également que ce dernier Daudet, justement, a une sorte de fascination pour le pouvoir politique du son enregistré, puisqu'il voit dans le disque un agent du chaos qui pourrait lui permettre d'amorcer un changement de régime. Mais ça, on pourra en parler au cours du podcast qui sera consacré au disque Héberto.
Merci.
La base de données PS2X est soutenue par le DIMPAMIR et la région Île-de-France. Elle est réalisée au Centre de recherche sur les arts et le langage, un laboratoire du CNRS et de l'EHESS, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.